morning edition from NPR News.
Let me teach some people how to eat.
France Inter, le 18-20.
Où fait-il bon être retraité en Europe? On va jouer au jeu des comparaisons ce soir. Ceux qui ont choisi la répartition, ceux qui la couplent avec une retraite par capitalisation, ceux qui connaissent déjà les points, ceux qui nous envient, ceux que l'on copie. Et c'est dans un instant. Le bruit du monde est au Kurdistan irakien ce soir, auprès de la commission d'investigation sur les crimes de Daesh contre les minorités, notamment les yézidistes. Une commission unique. Et Estelle Schmitt, dans le bruit du monde, la suite, nous emmène en Australie où le feu ne faiblit pas, ou aux États-Unis où on récompense un russe et figurez-vous. 18h50, passons genre dans le monde et Julia Foy sous comment le Vatican a financé le film sur Elton John, ou en tout cas partiellement. 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four et cette question, le new Green Deal, j'y suis, européen, est-il un miroir aux alouettes? On verra ça avec lui, le monde est vaste. Et on a une heure, bonsoir.
Fabien Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Pascal Jeanne.
Bonsoir.
Directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Je le disais, où en Europe fait-il bon être retraité? Alors c'est vrai qu'on a les mêmes défis, tout pays confondu, on a le même vieillissement de la population, peu ou prou. On a des taux de fécondité qui sont différents et ça aussi, ça fait jouer un certain nombre de systèmes et ça compte. Mais nous avons des approches qui sont différentes dans nos systèmes de retraite. On a beaucoup entendu ici, nous avons le meilleur système, gardons-le. Est-ce que c'est toujours vrai, comparé à nos voisins européens, est-ce que nous avons le meilleur système?
Alors, on est en train de modifier. En tout cas, le gouvernement souhaiterait le modifier parce qu'en effet, il y a deux données qui sont essentielles. C'est il faut qu'il y ait une population active en âge de travailler qui finance la population qui a travaillé et qui arrive au bout de sa vie professionnelle. Et cette population active diminue. Et la population en âge d'être en retraite augmente puisque nous avons un allongement du durée de la vie et une baisse en effet ou une entrée plus tardive de la population dans le marché du travail. Donc si on veut en effet que les aînés puissent avoir une pension, il faut peut-être voir de temps en temps la copie pour être sûr qu'ils puissent en avoir une.
On est d'accord sur l'une des raisons ou sur en tout cas le fait que on cherche en ce moment à revoir cette copie, mais en l'état, est-ce qu'on peut dire que nous sommes privilégiés? Et dans ces cas-là, c'est peut-être mieux d'être privilégié par rapport au reste de nos voisins européens ou pas?
Alors,
pour l'instant, là où nous en sommes.
Alors, là où nous en sommes, c'est que nous avons aujourd'hui en France l'âge de la retraite le plus bas de l'Union européenne.
Celui de l'âge légal.
De l'âge légal, qui est à 62 ans. Tous les autres pays, les grands comme les petits, le nord, le sud, sont tous environ à 65 ans, il y en a déjà qui ont programmé de passer à 67, tout simplement pour non pas embêter les salariés, mais parce que en effet l'allongement de la vie, le taux de natalité qui est dans certains pays critique, fait que bien si on va avoir une retraite pleine, il va falloir en effet avoir cet âge légal. Alors ça veut pas dire que cet âge légal est l'âge à laquelle on part à la retraite, parce que si vous avez commencé tôt, vous avez toutes les annuités, etc. Il y a différents critères qui mixent, mais cet âge légal, aujourd'hui, quand on affiche l'âge légal, c'est la France qui est le plus bas, et donc nos pays, nos partenaires européens nous disent, mais nous sommes arrivés à changer cet âge légal pour tenir compte de l'évolution des courbes, etc. Pourquoi vous n'y arrivez pas?
Alors si je lis, effectivement, l'Allemagne 67 ans en 2030, la Belgique 67 ans à peu près à la même date. Il y en a d'autres comme ça, il y a un alignement qui date de 2018, il y en a un autre qui se fera un peu plus tard à 67 ans pour ce qui est de la Grande-Bretagne. Ça veut dire que quoi, tout le monde a fait sa révolution culturelle, parce que au fond nous l'avons faite aussi, puisque des réformes des retraites, il y en a eu
oui,
beaucoup.
Ça sera la énième.
Exactement,
réforme.
Ce sera la énième. Donc est-ce que ça veut dire que de toute façon tout le monde fait régulièrement sa révolution des retraites autour de nous?
Bien sûr, parce que encore une fois, les deux systèmes qui existaient depuis longtemps par répartition, par capitalisation, annuité, points, sont en train d'être tous matchés. Il n'y a plus de pays qui fait vraiment un seul système. Mm-hmm. Le système bismarckien allemand ou beveridgien anglais.
Oui, c'est vrai qu'on a appris ces deux termes-là, le bismarckien.
En 1889,
qui date de
le
beveridge. Voilà. Les cotisations, c'est lui qui invente ça quand même. Moi j'ai appris ça, c'est lui, c'est Bismarck qui invente les cotisations.
Tout ça, en train de se mélanger parce que vous tenez à la fois un âge légal mais qui peut varier. Vous avez des durées de cotisation qui peuvent varier. Vous avez un taux plein. Mais vous pouvez prendre votre retraite. C'est le cas de la Suède. Vous pouvez prendre votre retraite à 61 ans, mais elle ne sera pas à taux plein. Donc c'est un choix où vous pouvez dire, bah, j'ai envie de profiter de la vie, mais je sais que j'aurai pas un taux de retraite qui sera très très. Alors où vous avez prévu depuis longtemps que la retraite c'était un objectif, vous avez d'autres activités professionnelles, vous avez une passion et vous voulez la vivre et vous avez pris des mesures par capitalisation pour vous permettre d'avoir un revenu, mais si vous partez plus tôt, bien en effet, vous aurez moins que celui qui aura répondu à tous les critères, et s'il part à 67 ans, puisque c'est aussi la date de la Suède, si vous partez à 67 ans, vous touchez plus qu'à 61 ans.
Alors on va y venir d'ailleurs à la Suède, parce qu'on nous dit toujours que le modèle est calqué sur celui-là parce qu'ils ont une retraite à points, on verra jusqu'à quel point c'est vraiment un modèle, et ce qu'ils ont de différent par rapport à nous. Répartition capitalisation, vous l'avez dit, est-ce que nous sommes les seuls au fond à privilégier à ce point-là le système par répartition, donc le système solidaire? Est-ce qu'on est les derniers dinosaures, vous diriez, là-dessus ou pas?
Non, le système par...
À l'avoir uniquement ou quasiment uniquement.
Le système par répartition, c'est aujourd'hui celui qui est quasiment dans tous les pays, pour assurer à tous ceux qui ont travaillé une durée, alors qu'il reste à apprécier dans les pays, à avoir une pension de retraite qui lui permettent d'avoir un minimum.
Sauf que tout le monde a un système à côté, voilà. En fait. Ce qui, l'instant, est moins
c'est le minimum,
cas chez nous.
Puisque une partie de cet argent vient... Alors, il y en a qui viennent, en effet, des cotisations payées par les salariés. Mais, par exemple, au Royaume-Uni, c'est un système d'impôt, donc public. Donc, personne ne veut avoir, en effet, un déficit. Et là, pour le coup, le modèle social français peut faire rêver, mais le déficit, certainement pas. Et donc, tout le monde nous dit, mais attendez, nous, on veut un système équilibré. Donc, le système par répartition, c'est en effet pour s'assurer que tous ceux qui ont travaillé peuvent avoir droit à un minimum. Maintenant, ce minimum dépend de beaucoup des pays les uns des autres. Il y a même des pays où il n'y a pas encore de minimum. Mais si vous voulez avoir plus, eh bien, le système, c'est... il faut, en effet, développer des systèmes qui permettent à des gens de pouvoir mettre, épargner de l'argent de côté en prévision des vieux jours, parce que en effet le montant de la retraite sera pas très élevé, tout du moins ça sera moins que ce qu'on gagnait.
Mais c'est vrai, quand on lit la presse européenne aujourd'hui, Pascal Johanna, on lit quand même beaucoup de choses, beaucoup d'explications sur notre modèle social, notre modèle de société, peut-être la fin de ce modèle de société, donc le regret de la fin de ce modèle-là. On a l'impression que la presse européenne s'accorde à dire oui, c'est vrai, peut-être qu'il faut le réformer, mais en l'état, par exemple, le taux de pauvreté chez les personnes retraitées est moins important chez nous qu'il peut l'être ailleurs.
Alors, c'est tout à fait vrai. Donc c'est pour ça que il y a toujours ce système de la pérennité, d'essayer de faire en sorte que le nombre de petites retraites, le terme est un peu ce que chacun voit, mais en tout cas qu'il y ait un minimum versé à tous ceux qui ont travaillé, sans que pour autant soit obéré les finances publiques, puisque bon, et la pérennité, c'est de faire un jour se dire, il faut faire des projections. Alors, ça peut être que progressif. On n'est pas obligé de passer de 62 à 67 ans pour une génération, une année en particulier qui serait charnière. C'est de dire. La durée de vie augmentant, les prévisions étant de celle-ci, etc. Il faut qu'on arrive à progressivement, c'est ce que font d'ailleurs les pays. Ils ont 67 ans, mais c'est pas, il y en a qui ça arrivera en 2020, d'autres en 2030. Mais c'est des prévisions parce que, il y a une science qui est à peu près exacte, c'est en effet la démographie. On sait combien d'enfants on fait ou pas. On sait quel est le taux de mortalité. Et on sait que forcément, il y a 30 ans, il fallait partir à 60 ans pour après avoir 20 ans de retraite. Aujourd'hui, si on part à 65 ans, on a encore 20 ans de retraite.
Ils ont tous le même âge, nos systèmes de retraite, les uns les autres. Au fond, ils datent tous plus ou moins de la fin de la guerre.
Oui, de l'après-de-la-guerre ou des années 50,
exactement,
en tout cas.
Dans ces périodes-là, est-ce qu'il y a encore une fois, on reviendra sur la Suède dans un instant. Est-ce qu'il y a un pire système? Est-ce qu'on est capable de dire, dans ce pays-là, en Europe, c'est vraiment terrible? Là, pour le coup, les retraités sont les plus mal lotis ou pas?
Non, alors, j'allais dire, l'Europe est un continent de cocagne en matière de droits sociaux et d'avantages divers et variés. Il suffit de regarder ce qui se passe dans d'autres parties du monde, et notamment aux États-Unis, par exemple, pour prendre un pays, etc., où en effet, si vous n'avez pas mis d'ores et déjà la retraite, qu'il n'y en a pas si vous ne l'avez pas constitué par vous-même.
Enfin, sur la retraite,
c'est un autre système. Donc, là, en l'occurrence, quel que soit le modèle de gouvernement, la majorité, etc., le système de retraite, il existe dans tous les pays, sauf qu'il faut en effet l'adapter en permanence, dans le départ et dans le système, parce qu'en effet, il faut assurer sa pérennité et donc faire en sorte qu'il n'y ait pas un moment à rupture où il y a des jeunes, enfin, où il y aura moins de jeunes qui paieront pour eux parce qu'il y aura plus de personnes âgées. Mmh. Et puis, vous avez des choix. Par exemple, en Suède, vous avez des gens qui continuent à travailler parce que il n'y a pas de limite. Donc, plus vous travaillez, plus vous avez éventuellement, parce que la santé vous le permet, parce que vous faites un job qui vous permet, qui vous plaît, etc. Ça vous permet, le jour où vous partez à la retraite, de gagner
des
plus.
Points. Parce qu'on a des, il y a des
voilà,
points.
De gagner alors, plus. Alors, et donc, si votre santé, vous avez un métier qui vous plaît, que vous n'avez pas de d'obligations diverses et variées, si vous partez plus tard, eh ben, vous avez une incitation, c'est un peu une carotte. On vous dit, vous gagnerez plus. Ouais. Alors, tout dépend, en effet, quelle est la situation des individus.
Tout dépend quel est votre métier, quel est le métier que vous faisiez. Si vous pouvez continuer à travailler plus longtemps, mais enfin, il y a des calculs qui ont été faits. Par exemple, en Suède, 4 ans de plus, c'est 500 euros de plus.
Ouais.
Ça fait cher l'année, quand même, très honnêtement.
Ah ouais, oui,
500 euros de plus, 4 ans de plus, 500 euros de plus. C'est pour ça que, d'après ce que j'ai cru voir, c'est le modèle dont on nous dit à chaque fois qu'il est celui dont on s'inspire. 2/3 des Suédois partent après 60 ans, donc 3 fois plus que les Français, finalement. Au fond, à la fin, les Suédois partent plus tard que nous partons, nous, réellement, malgré ce système à points dont on nous vend
exactement,
les mérites.
C'est pour ça que aujourd'hui on est un peu une anomalie quelque part, en se disant à 62 ans, on a en plus, certes on a une natalité qui est un peu meilleure, c'est vrai que d'autres pays, mais on a des tendances en tout cas qui sont les mêmes que nos voisins, et y compris les Italiens, c'est pas le pays du Nord, du Sud, des rigoristes protestants, etc. Non, c'est vraiment ce système là, aujourd'hui, pour les Européens, c'est de dire, mais vous pouvez pas continuer à avoir un système où l'âge légal de départ à la retraite est à 62 ans. Ça n'est matériellement plus tenable et vous devez faire quelque chose. Alors, il faut y aller progressivement. Il y a un calendrier. On voit bien que le gouvernement tergiverse et on ne sait pas très bien comment tout ça va finalement être à arriver. Mais la tendance, elle est là. Et donc nos partenaires européens nous disent, mais nous, on a fait ce changement. Alors, si on y arrive, pourquoi vous n'y arrivez pas, quoi, voilà.
C'est la raison, selon vous, quelle est-elle? Parce qu'on voit aussi dans la presse européenne, on parle beaucoup de notre modèle social. On parle aussi de notre mode de fonctionnement. Notre longue tradition de grève, disait l'un des journaux européens, je ne me souviens plus lequel, et c'était hier ou avant-hier, je crois. Comment on est perçu, nous, dans ces moments-là, nous, la France, par les partenaires européens?
Alors,
il y a une interrogation, est-ce qu'on vous regarde bizarrement en disant qu'est-ce qui se passe chez vous?
Un pays qui a beaucoup d'attrait, d'ailleurs, c'est un des pays dans lequel on vient le plus, etc. Mais il y a deux choses il y a cette difficulté à réformer, on a l'impression que c'est compliqué, et on a surtout, alors, il y a dans tous les pays des syndicats qui sont plus ou moins forts, des taux de population de syndiqués qui sont différents, c'est plutôt en Allemagne et en Autriche d'ailleurs qu'il y a plus de syndiqués qu'ailleurs.
Pour d'autres raisons.
Et alors nous on a en effet l'image de la grève avant de savoir exactement ce qu'il y a. Et alors ça chez les Européens, c'est quand même quelque chose qui est typiquement français, c'est vous faites une espèce de grève préventive alors que vous ne savez pas réellement ce qu'il va y avoir, et donc si la réforme qui va être mise en place est contraire à vos est vraiment dure et contraire à vos intérêts, etc., vous faites grève un petit peu pour faire pression, alors qu'en effet dans la plupart des pays on fait grève pour contester des mesures qui sont sur la table et qu'on aimerait changer.
Alors, c'est un jeu à deux, puisque effectivement, après, les gouvernements aussi mettent la main sur le fourneau pour voir si c'est chaud. Mais en même temps, concomitamment, il y a encore, est-ce qu'elle a toujours cours, subitement, j'ai un doute, une grève des transports en Grande-Bretagne, par exemple, à peu près au même moment. Donc, on n'est pas les seuls, tout de même, dans ce mode d'expression, rassurez-moi.
Bien sûr. Non, mais la grève est un droit qui existe, etc. Non, c'est la grève préventive, c'est celle qui se fait avant, etc. Mais, ça fait partie du charme, on va dire, typiquement français, qui fait que on a du mal à réformer. En même temps, malgré tout ça, on arrive à faire avancer les choses. Donc là, sur cette question-là, il faut qu'on bouge et il faut qu'on arrive à trouver un accord qui fasse que les syndicats, les partenaires sociaux en général, s'entendent pour en effet trouver les mots qui conviennent pour qu'une réforme soit mise en route, progressive, qui arrive en effet à faire en sorte que le système puisse être pérennisé pour qu'en effet il n'y ait pas un jour un problème puisqu'on ne pourrait plus pédancer les retraites telles qu'elles existent aujourd'hui.
Vous qui, depuis l'Institut Robert Schuman, voyez régulièrement nos partenaires européens dans des instituts qui peuvent ressembler aux vôtres d'ailleurs, donc avec au moins ce recul-là, est-ce qu'on vous dit encore? Est-ce qu'on vous dit de toute façon on sait que ça va se tasser? Est-ce qu'on vous dit encore une fois ça va être compliqué, de toute façon la France reviendra en arrière? Qu'est-ce qu'on vous dit? Comment on vous regarde?
Alors, moi, on ne me regarde pas, pas spécifiquement, mais la France, oui. Ben, la question, c'est une question de crédibilité. Ceux qui ont fait des réformes estiment que la situation, toutes les choses égales par ailleurs, est la même dans tous les pays et qu'il y a des choses qui sont communes et qu'on doit pouvoir faire. Alors il y a des rigoristes bien entendu, mais en rang général, les choses ont été faites. Et on comprend pas pourquoi, chez nous, on attend le dernier moment, quand vraiment la situation devient la pire, pour faire avancer les choses. Tout ça avec, en effet, une ligne qui est celle que tout le monde sait. On a longtemps été, nous, en déficit, et donc il faut remettre un peu d'ordre dans les dépenses publiques. C'est aussi une autre réforme qu'on attend, parce que en effet, les autres le font, et ça décrédibilise un peu la parole de la France, parce que si on faisait ces réformes et si on arrivait en disant « voilà, maintenant on aimerait faire ça », on serait plus crédible parce que les autres nous regardent en disant « fais d'abord tes réformes chez toi, puis après tu nous reparleras des réformes de l'Europe ».
Allez, Pascal Joannon, merci beaucoup pour cette étude comparative, directrice générale de la Fondation Robert Schuman, avec nous ce soir.
Bonsoir. Le 18-20. Fabienne Saintès sur France Inter.
La suite d'un jour dans le monde, c'est le bruit du monde au Kurdistan irakien qui est le seul à avoir une commission d'investigation sur les crimes de Daesh contre les minorités. Vous le verrez dans un instant. Le bruit du monde, la suite est Estelle Schmitt en Australie avec des incendies qui font rage toujours.
Hein. Oui, toujours. Et même là, plusieurs jours, plusieurs mois encore, les autorités sont très pessimistes.
Et on voit ça dans un instant ensemble. Julia Foy, c'est pas son genre dans le monde. On parlera d'Elton John et du Vatican ce soir. Et puis Jean-Marc Four, le monde à l'envers.
Mes
bonsoir. Le Green New Deal européen, alors, qui va accoucher d'une souris verte.
Demain, bah écoutez, on verra la devanture du magasin est bien achalandée, c'est séduisant, mais à l'intérieur du magasin, est-ce qu'il y a les articles?
Allez, à tout de suite, je vous laisse avec Iggy Pop, Love's Missing sur France Inter. We'll be right back. Le bruit du monde ce soir est en Irak, au Kurdistan irakien précisément, à Dohuk, siège d'une institution particulière et singulière, la commission d'investigation sur les crimes de Daesh contre les minorités. Elle a été créée par les autorités kurdes d'Irak à l'hiver 2014, donc quelques mois après l'avènement de Daesh et les premières exactions contre les civils. Double objectif, aider ceux qui ont perdu toute trace de proches, à les retrouver bien sûr, et tenter de lutter contre l'impunité en documentant ces crimes pour de potentiels procès. C'est Aurélien Colli qui nous emmène dans les coulisses de cette commission sans équivalent.
On est au siège de la commission d'investigation kurde. C'est un bâtiment assez discret, gardé mais pas bunkérisé. On se dirige vers la salle d'attente où une dizaine de personnes viennent chaque jour pour raconter à des policiers la disparition d'un proche arrêté, emmené, volatilisé quand Daesh contrôlait le nord-ouest de l'Irak.
Mon mari et mon beau-père ont disparu alors qu'ils étaient aux mains de Daesh. Le jour où Daesh a envahi notre région, le Sinjar, ils nous ont tous arrêtés. Ils ont séparé les hommes et des femmes. Et puis ils nous ont emmenés. Nous, les femmes, à Tel Afar. Et depuis ce jour, je n'ai plus aucune nouvelle de mon mari. Je ne sais pas où il est, je ne sais rien.
Cette femme appartient à la minorité yézidi, particulièrement visée par Daesh. Plusieurs milliers de morts, de disparus, de déplacés. Dans le bureau qui est juste à côté, il y a un jeune garçon, yézidi lui aussi, qui est reçu par les enquêteurs de la commission.
Je suis venue pour parler, pour raconter comment Daesh nous a emmenés, avec mon père, parce que mon père a disparu jusqu'à présent. Moi, j'ai passé 4 années avec Daesh. Pendant ces années, ils nous ont baladés partout. On a appris l'islam, le Coran. Ils nous ont entraînés à tirer, à utiliser leurs armes. Daesh, ils étaient tellement mauvais. Ils ont tout détruit. Ils ont tué des gens, pris des femmes, des mères.
Ici, chaque disparition fait l'objet d'un dossier avec détails physiques du disparu, date, lieu, circonstances, témoignages des proches. Des échantillons de sang sont aussi prélevés sur place pour de futurs recoupements ADN avec des dépouilles qui seraient retrouvées. Et tout ça alimente ensuite une base de données qui compte déjà près de 2000 noms de disparus.
Je m'appelle Souleymane. Je suis chargé des saisies informatiques. Cette base contient les informations essentielles. Pour chaque personne, le nom, la date de la disparition, les lieux où il aurait pu être transféré ou exécuté. Chacun fait l'objet d'une enquête propre, en partant du lieu et de la date de disparition. Bien sûr, ça me fait mal au cœur de voir ça. Mais c'est mon travail. Il faut que je le fasse pour les familles, pour les retrouver.
Au Kurdistan irakien, une vingtaine de charniers ont été mis au jour, notamment par la commission d'investigation qui a aussi recensé la quasi-totalité des lieux de détention ou de torture utilisés par Daesh. Tout ça est cartographié, recoupé avec chaque cas de disparition, avec d'autres sources aussi, comme des registres retrouvés sur place ou des aveux de prisonniers.
Je m'appelle Mustafa Ahmed. Je suis le chef du système d'information géographique. Ce programme montre une carte où sont géolocalisées les disparitions et les scènes de crime. On peut visualiser ce qui est arrivé aux gens, leur itinéraire. On recoupe un maximum d'informations. Par exemple, on sait que telle personne a été arrêtée à tel endroit par telle personne qui l'a conduite ensuite à tel autre endroit. Par exemple, arrêtée à Shingal, puis ramenée à Tel Afar, battue et torturée, puis transférée à Mossoul.
Panorama macabre mais nécessaire pour documenter les exactions de Daesh avec de véritables enquêtes criminelles qui sont pilotées par un juge d'instruction. Il dirige cette commission d'investigation kurde, le juge Ayman Mustafa.
Comme organe judiciaire, nous collectons toutes les preuves nécessaires, tout. Et on a aujourd'hui une bonne compréhension de ce qui s'est passé, de la manière dont Daesh a commis des crimes de masse, séparation, esclavage, détention, enlèvement. On a aussi identifié un grand nombre d'auteurs de ces crimes, des Irakiens et des étrangers.
Alors pour le juge, les preuves accumulées par sa commission permettraient des procès à grande échelle contre Daesh, mais aujourd'hui c'est le droit irakien qui ne le permet pas.
On se heurte à un vide lié à l'absence des lois adaptées. Les dispositions du droit international sur le génocide, les crimes de guerre et contre l'humanité n'existent pas dans notre système juridique. Donc, on ne peut pas aller plus loin. Ce qu'on fait, c'est qu'on enquête, on accumule les preuves et on archive ces preuves en attendant un mécanisme qui permette de rendre la justice.
À Bagdad, le gouvernement fédéral n'a pas l'air vraiment pressé. Juger les djihadistes au cas par cas pour terrorisme, comme il le fait aujourd'hui, est en fait moins délicat qu'un grand procès qui pourrait mettre aussi en lumière certaines de ses ambiguïtés avec Daesh.
Aurélien Colli pour le reportage. Merci beaucoup. Le bruit du monde quand il passe sous les radars, et ça donne ça. Et ce bruit, hélas, on l'a déjà entendu ici, le bruit des flammes et des lances à incendie des pompiers australiens, Estelle Schmitt. Ça fait 3 mois que l'est du pays est touché par des feux de forêt. La situation s'est aggravée encore.
Près d'une centaine d'incendies dans les états du Queensland et de Nouvelle-Galles du Sud, où se trouve Sydney, la ville la plus peuplée du pays. Depuis ce matin, l'air est irrespirable à cause d'un épais brouillard de fumée. La pollution dépasse les seuils dangereux. Les habitants appelés à rester au maximum chez eux. Et même sous les masques, on suffoque. Les élèves sont confinés à intérieur pendant la récré, dans les bureaux. Des alarmes de détecteurs de fumée sont massivement déclenchées ces dernières heures. Les pompiers ne comptent plus leurs interventions. Des pompiers d'ailleurs pas franchement optimistes pour les jours à venir. Rolf Poul est inspecteur des services d'incendie. Au micro de l'agence France Presse, il explique qu'il s'attend à ce que ces interventions se poursuivent un moment. Même avec des conditions météo plus clémentes, dit-il, il y aura nombreux incendies dans la région. Il y a tant de feux qui nécessitent non pas des jours, mais des semaines pour être maîtrisés. Il va donc falloir, selon lui, attendre l'arrivée d'une grosse pluie avant de pouvoir dire que ces incendies sont bien maîtrisés. Et sont plutôt des températures élevées et des vents forts qui sont attendus dans les heures qui viennent. De quoi attiser les braises et la colère aussi des écolos qui accusent le gouvernement de ne rien faire. Un gouvernement conservateur, défenseur aussi de la très lucrative industrie minière australienne, également accusé par les pompiers de ne pas avoir écouté leur mise en garde sur le réchauffement climatique. Enfin, le Premier ministre Scott Morrison, lui, répète que ces incendies, surtout, n'ont rien à voir, mais rien avec le climat.
En Chine, rien à voir. La folie de l'apprentissage de la programmation informatique.
En 2017, les autorités ont lancé un plan qui prévoit des cours dès le primaire. Des écoles ont d'ailleurs fleuri dans tout le pays. Mais bon nombre de parents estiment qu'il faut s'y mettre encore plus tôt pour mettre toutes les chances du côté de leurs enfants, comme ceux de Vita, ce petit garçon de 8 ans, Vita Shanghai. Il pratique le codage informatique depuis 3 ans maintenant. C'est son père, lui-même enseignant en informatique, qui l'a formé à la maison. Et aujourd'hui, c'est lui qui enseigne la programmation à d'autres enfants et même à des adultes. Vita a même sa chaîne de tutos en ligne sur le site de vidéo Bilibili et ses cours sont suivis par quelques 60 000 internautes. Vita explique que la programmation, c'est pas aussi compliqué que ce qu'on pourrait croire. Et il assure qu'il apprend aussi en même temps qu'il enseigne. Pour enseigner, dit-il, je dois passer moi-même tous les niveaux, sinon je ne pourrais pas expliquer les choses si je n'ai pas essayé.
Laissez le finir.
Alors dit comme ça, ça peut sembler logique, mais on peut aussi se demander si ça amuse vraiment un enfant de 8 ans, la formation à la programmation. En Chine, en tout cas, ce marché pour les enfants a été évalué à 1 milliard d'euros en 2017. Et selon un cabinet d'experts de l'Internet, l'année prochaine, ce nombre sera multiplié par 5.
Et Vita, ce petit prodige chinois de la programmation, vous avez raison, je ne sais pas s'il a vraiment envie de faire ça ou pas. En tout cas, il n'a jamais probablement entendu parler de Sesame Street.
Non, un rue Sésame dans la version française. française Toccata, Mordicus, Elmo, les marionnettes, ça vous dit forcément quelque chose. Le programme télé américain fête cette année ses 50 ans, adapté dans 150 pays, 86 millions d'enfants élevés par ces comptines éducatives qu'on entend en ce moment, parce que c'était bien ça le but du créateur Jim Henson, qui est également le papa du Muppet Show, faire de l'instruction gratuite, apprendre à lire, à compter, la politesse et puis un petit peu de morale aussi. Selon des spécialistes des médias, Sesame Street a touché un public qui n'avait pas forcément les moyens d'accéder à d'autres formes de savoir. Et puis à des époques aussi, on ne voyait pas vraiment la diversité à la télé américaine. Le programme montrait des personnages de couleur ou qui parlaient espagnol, une vraie ouverture en somme. Et puis le programme s'est aussi adapté aux changements de société. Par exemple, la marionnette Macaron le Glouton ne s'enfiffre plus de cookies récemment pour lutter contre l'obésité infantile. Et puis Mordicus, lui, ne vit plus dans une poubelle, mais dans un bac de tri sélectif. Et Sesame Street va recevoir les plus hauts honneurs de la culture américaine, puisque le prestigieux centre Kennedy va lui remettre un prix. Ça sera dimanche à Washington lors d'une cérémonie.
Et ben voilà, Mordicus qui vit dans un bac de tri sélectif. Moi, je trouve ça formidable. Merci beaucoup, Estelle Schmitt. On se retrouve évidemment demain. Voici Janis Joplin sur France Inter. Moreover. Janis Joplin sur France Inter.
France Inter. Un jour dans le monde.
Et Julia Foyce, qui devait être là et coincée dans les bouchons, ben oui, ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors si vous nous entendez, Julia, respirez par le ventre, précisément, inutile de klaxonner. Prenez quelqu'un sur la route histoire de faire du covoiturage utile. Et voici pour vous, c'est un hommage, voici Aloïs Sauvage et Jimmy, c'est dans l'humeur de Pas son genre, un avant-goût aussi de la prochaine playlist d'Inter, et c'est formidable.
Solitaire, Jimmy s'affaire à s'affirmer pas à pas, même si tout ça est harassant parfois. Jimmy a le regard troublé, Jimmy le sait. C'est désormais sur celle-ci que s'orientent ses yeux conquis. Jimmy enchaîne les blagues, Jimmy divague. Jimmy charme, Jimmy gagne la confiance de sa belle qui se laisse couler sous les draps jusqu'au souper. En s'oubliant, se laissait vivre. Jimmy a réussi son coup. Dans la rue, à son bras, ça peut le signer. Et Jimmy, quand j'ai déjà beaucoup, ses plans sur la comète, un jour des enfants à son cou. Jimmy voit très bien que les yeux étrangers regardent les siens. C'est sa première fois, sa première femme. C'est vrai, c'est pas la première fois qu'on les observe passer. La nuit, Jimmy, Jimmy, quand on lui dit que. Mais arrêtez de dire que Jimmy aime qui elle veut. La nuit, Jimmy, Jimmy, quand on lui dit que. Mais arrêtez de dire que Jimmy aime qui elle veut. La nuit, Jimmy, Jimmy, quand on lui dit que. Mais arrêtez de dire que Jimmy aime qui elle veut. La nuit, Jimmy, Jimmy, quand on lui dit que. Mais arrêtez de dire que.
Sauvage et Jimmy, la bise à Julia dans sa voiture, à la semaine prochaine.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le Monde à l'envers et Jean Marfour. Jean-Marc, demain, ce sera donc l'acte fondateur de la nouvelle Commission européenne. La présidente Ursula von der Leyen s'apprête à dévoiler un vaste plan environnemental, le New Green Deal, dans le bon sens. La devanture de ce plan est séduisante, mais en cuisine, c'est plus compliqué. Il y a même un risque d'illusion, de mirage, dites-vous, et c'est votre Monde à l'envers.
Tadadam, sonnez trompette, hein, les petits plats dans les grands. Tout le Parlement européen réuni demain en session extraordinaire à Bruxelles, donc pour écouter Ursula von der Leyen dévoiler son plan vert, son New Green Deal, vous l'avez très bien dit. Le tout à la veille d'un sommet des chefs d'État européens. Flonflon, guirlande dans les vitrines, c'est Noël avant l'heure. Et c'est vrai que ce plan est ambitieux, séduisant. Comme son nom l'indique, il s'inscrit en héritier du New Deal de Roosevelt dans les années 30 aux États-Unis, qui avait su en quelque sorte convertir la crise économique en opportunité de rebond général du pays. Et la problématique est finalement assez comparable. Une crise majeure, le climat, une occasion de relancer l'économie sur une base plus écologique. Le projet a de quoi séduire de nombreux citoyens et même les réconcilier avec l'Europe. L'Europe qui pourrait ne plus être vue comme un frein bureaucratique, mais plutôt comme un accélérateur d'idées. Et puis ajoutons un paramètre savoureux, c'est qu'en plaçant cet enjeu en priorité numéro 1, Ursula von der Leyen a pris de court, y compris les chefs d'État qu'il avait choisis, et ça c'est plutôt marrant. Ce New Green Deal, il a de quoi séduire aussi dans ses objectifs. La neutralité carbone en 2050, voire une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 55% et non plus 40% des 2030, il y aurait sans doute une taxe carbone aux frontières, des investissements massifs, vraiment massifs, dans les nouveaux projets verts et renouvelables, les transports, l'agriculture, etc. Bref, il y a quand même du lourd, et ce coach von der Leyen semble avoir des idées et du punch.
Alors, sauf que le discours du coach, dites-vous, ça ne suffit pas, donc.
Ben, en gros, c'est ça. Encore faut-il que les joueurs adhèrent individuellement à la stratégie de l'entraîneur et qu'ils la jouent collectif, et là, ça se complique. D'abord, il va falloir financer tout ça. Au bas mot, 1000 milliards d'euros, sur le papier, une fortune, 7 fois le budget annuel de l'Europe. En réalité, les 28 pays de l'Union en sont capables. Ils pourraient même, s'ils le voulaient, le décider dès jeudi, après-demain, lors du sommet des chefs d'État, en actant du budget 2021-2027 et en sanctuarisant des lignes financières vertes. Mais vous verrez, ils ne le feront pas, ça va drainer comme d'hab. L'enjeu, c'est notamment un mécanisme de solidarité, c'est-à-dire aider les pays qui auront le plus de mal à effectuer rapidement la transition parce qu'ils sont tributaires du charbon, par exemple la Pologne, la République tchèque, pallier les lacunes des joueurs les plus faibles, si vous voulez, c'est pourtant ça le sport collectif. Et puis aussi, donc, faire des efforts individuellement. Alors sur ce plan, on peut compter sur les pays scandinaves, aussi sur le Portugal, sur l'Espagne, mais d'autres sont en retard. Exemple, la France, c'est pas moi qui le dis, c'est la Commission européenne dans un rapport de cet été. Le développement des énergies renouvelables est trop lent, la France est mal partie pour respecter ses objectifs sur la réduction des gaz à effet de serre en 2030. Paris parle beaucoup, mais n'agit pas tant que ça et continue discrètement de subventionner des énergies fossiles via des niches fiscales. Et là, les consignes de l'entraîneur von der Leyen ont soudain un peu disparu des radars.
Et accessoirement, Jean-Marc, les Européens ne sont pas les seuls à jouer ce jeu-là.
Ça, c'est l'autre problème et de taille, puisque après tout, l'Europe, ce n'est qu'à peine 10% des émissions mondiales de CO2. Le premier obstacle avec le monde extérieur, il est technique. Si on met une taxe carbone aux frontières, il va falloir définir comment l'appliquer. Et ça, c'est pas facile. Il faudra bien un barème pour fixer le montant de la taxe. Autrement dit, des critères pour définir si un pays non européen est plus ou moins vertueux que nous sur l'environnement. Qui fixera ces critères? Comment? Et puis, comment rendre ça compatible avec les règles du commerce international? Donc, sans courir le risque de rétorsion, de représailles commerciales. C'est un peu un casse-tête chinois. Le second obstacle est politique. À quoi bon jouer si les autres équipes principales ne veulent pas respecter les règles du jeu? Alors là, on pense évidemment aux États-Unis de Trump qui vont jusqu'à nier l'existence de l'urgence climatique. On peut aussi penser à la Chine et à l'Inde où, malgré des investissements massifs dans les renouvelables, la pollution liée au charbon reste gigantesque. Bon, cela dit, le coach Ursula von der Leyen a quand même raison d'essayer. L'Europe à 28 possède la taille critique suffisante pour espérer créer un effet d'entraînement. Le risque aussi, à l'inverse de l'effet pchit, existe, c'est vrai, mais ça vaut le coup de tenter.
Allez,
sait-on jamais.
Jean-Marc Fauré, Le Monde à l'envers, merci beaucoup. À demain, le 18-20. La suite, c'est un journal un peu plus petit format de Sébastien Power. Et puis le téléphone sonne. Attention, ce soir, on ne peut pas prendre vos appels à l'antenne. Et comme un seul de nos standardistes a réussi à passer à la fois les transports, les bouchons et la manif, préférez franceinter.fr ou l'appli du téléphone sonne. On parle de l'impact sur l'économie d'un mouvement. S'il est durable, ne bougez pas.